virginité.
L'important, c'est qu'on décide et qu'on fasse le choix de ce qu'on a envie. Qu'on ait envie de faire des partous tous les week-ends ou de rester vierge, je vois pas où est le problème, on fait ce qu'on veut.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions, ses tendances aussi. Et aujourd'hui, une tendance qu'on retrouve sur TikTok, sur Insta et qui fait froid dans le dos à Manon Mariani et globalement à tous les féministes, donc disons à toute l'équipe de Zoom Zoom moins Pierre Courade, ce mot redevenu tendance, c'est virginité. Oui, ce mot qui ne désigne finalement rien de tangible puisqu'il a été, on le verra, essentiellement un outil du patriarcat pour contrôler à son avantage le corps des femmes revient à la mode auprès de la Gen Z. Pourquoi? Comment? Qui a lancé cette tendance? Je préfère vous l'annoncer d'emblée. Mes jeunes chroniqueurs qui croquent la vie à pleines dents et dont le centre d'intérêt principal est...
La bouillarde!
Sont, surtout Quentin, sont outrés. Manon a failli carrément ne pas venir. Seule la consultation de son solde sur l'appli BNP Paribas l'a convaincue de se forcer quand même.
Pas faux.
Mais que pourrait bien nous raconter d'intéressant sur cette mode de la virginité, quelqu'un dont les favoris sur X-Hamster sont, je le rappelle...
MILF, trans, BDSM,
oui.
Bien membres,
etc. On les connaît probablement rien. Et c'est pourquoi, je vous rassure, mais on a invité quelqu'un d'autre, plus à même de nous expliquer ce qui se passe avec cette tendance virginité. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour Manon Lugas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes coordinatrice d'intimité. Quentin avait parlé de vous dans une de ses chroniques il y a quelques mois. Vous êtes aussi créatrice de contenu. Vous avez ouvert le compte Insta Le Cul Nu, dans
Absolument.
Lequel vous vulgarisez les sujets sexos. Vous intervenez aussi sur France TV Slash. Pourquoi le thème de la virginité revient en force sur les réseaux? Est-ce que c'est une mode ou un vrai phénomène de société? Vous allez tout nous expliquer. Juste le temps de vous présenter deux journalistes qui, même par conscience professionnelle, n'ont pas eu le courage de cliquer sur une story virginité. Ils ont le sang chaud. Leur surnom dans le milieu, dans le showbiz, le prouve. La croqueuse de l'Est parisien et la bûche givrée d'Alençon. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Je ne sais pas qui nous surnomme comme ça, mais...
Non, Mathieu.
Bah, moi déjà, voilà. J'essaie de vous créer des réputations sulfureuses.
Ouais.
Essayez d'en tirer
profit. C'est infini finalement.
À vos côtés, je fais les présentations.
On est tous les deux maqués, ça va.
Manon. Pour vous distinguer, je me référais à Manon l'invité et Manon la nièce de Thierry Mariani.
Oh, Manon, ça n'est pas mon oncle.
La nièce de Thierry Mariani dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Une comédie américaine des années 2000 qui parle d'un homme toujours puceau à 40 ans, le titre est dans l'énoncé. Mais derrière la comédie potache, il y a aussi un sujet peu traité, la virginité des hommes.
Face à vous, Manon, sa virginité, lui, il l'a perdue dans un champ de colza du bocage normand à l'été 2009. Alors qu'il cuvait son cidre fermier, les lèvres encore enduites de sauce Magic Bogos du kebab de la veille, Quentin avait croisé Micheline. Elle était perdue, j'étais bourré, je l'ai ramenée à son enclos et la suite, je m'en souviens plus très bien. Écrira Quentin dans ses mémoires confession d'un start-upper complètement à la rue. Quentin, en attendant de lire ce chef-d'œuvre inspirant, vous êtes allé à la rencontre des passants pour les faire réagir à cette info. Dites-moi si c'est
mais
faux.
Quel mépris de classe pour les gens issus de région. Enfin, c'est impossible, quoi.
On a un sonore de Micheline.
C'est Micheline.
Elle en garde un bon souvenir, visiblement.
C'est fou. Alors que vous fréquentez en plus la campagne.
Alors, moi,
un week-end sur deux.
Je vous rappelle où j'habite, les vaches sont tout autour.
Faites ce que vous voulez, mais
moi-même dans l'enclos. Peut-être que je m'inspire de ma vie personnelle.
Oh,
qui sait, mon Dieu, n'en dites pas trop. La virginité revient à la mode ou pas?
Je suis allé poser la question. La virginité questionne, intrigue. Dans la rue, elle raconte aussi quelque chose de notre époque. Témoignage et point de vue différents avant 16h30 dans ce micro-trottoir complètement à la rue. Ça va, Gisela?
Elle vous appelle quand
on normand.
Vers 16h30, nous partirons à la découverte des grandes figures de la virginité dans l'histoire et la mythologie. Et non, Manon, on va pas se faire chier. Ça va être super intéressant. Ouais. Comme toujours, le Zoom Zoom Test. Juste avant 17h, Lisa Perriot nous rejoindra, certainement déguisée en influenceuse virginité avec un hymen en peluche. Ils ont bien fait des peluches en clitoris pour les JO, tout est possible. Après 17h, restez bien avec nous. On recevra la comédienne Nora Mzaoui pour son nouveau roman photo Couple, splendeur et misère de la vie à deux, qui, on l'espère, ne nous donnera pas envie de rejoindre la tendance virginité. Mais d'abord, justement, Manon Lugas, pourquoi la virginité fait-elle l'objet d'une nouvelle fascination comme ça en 2025?
Parce qu'elle s'aligne totalement avec les tendances actuelles, c'est-à-dire que ces dernières années, il
on a quand même assisté à une hypersexualisation dans notre société. On n'a jamais eu autant de corps nus, de contenu pornographique. En même temps, il y a eu les combats féministes qui sont totalement réappropriés cette hypersexualisation pour replacer au cœur du débat les notions de consentement, de plaisir, pour en fait en faire une forme de liberté. Donc, il fallait s'y attendre qu'il y ait une forme de mouvance qui vienne un peu à contresens et qui valorise, enfin, qui essaie du moins de valoriser une forme de pureté par la virginité. Et tout ça, ça fait sens aussi avec la montée des valeurs un peu plus conservatrices. Donc, oui, c'est pour ça qu'on voit ça de plus en plus sur les réseaux.
On va y venir, mais est-ce que c'est vraiment un truc de droite, ce retour de la virginité, ou pas du tout? Est-ce que c'est lié au tradwife, par exemple, ou non?
Alors, sur les réseaux sociaux, on se rend compte que ça suit un peu le mouvement soft, clean girl, pureté, enfin, l'idée, encore une fois, de vouloir se montrer comme étant unique, comme étant réservé à quelqu'un. Donc, oui, ça peut rejoindre ce côté tradwife, mais il y a aussi juste le côté vouloir faire communauté. Quand on est vierge, c'est pas un trait de personnalité, c'est quelque chose qui...
Oui, ça peut être un refuge aussi, et se dire...
Complètement, voilà, et d'ouvrir le débat, la discussion, et de pas se sentir seul là-dedans, parce que ça a souvent été l'objet de moquerie, la virginité, donc on peut aussi vouloir juste se rassurer. Mais évidemment, il y a des tendances qui se créent, et puis c'est facile de capitaliser dessus aussi sur les réseaux sociaux.
Lui aussi est complètement dépassé par cette tendance virginité. Forcément, il fait partie de ces boomers qui ont fait 68. À l'époque, on vivait le pantalon baissé, le slip roulé sur les genoux. C'était à qui aurait le plus de partenaires, ferait les trucs les plus fous. Écrivait ce matin Cyril dans une bouffée de nostalgie à son ami, notre invité d'hier, Patrick Sébastien, qui ne lui a pas répondu par des mots, mais par un dick pic, accessorisé avec des lunettes. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour à tous.
Une
imitation probable. Alors Cyril, racontez-nous, si j'ose dire, la virginité, d'où ça sort?
Eh bien imaginez une idée qu'on ne peut ni voir, ni mesurer, une idée qui a traversé les millénaires, les religions et les guerres. Une idée capable de décider du destin d'une femme, d'un mariage, d'une réputation. Cette idée, c'est la virginité. Le mot vient du latin virgo, et au départ, ça ne parlait pas de sexualité, mais c'était un sujet d'état civil. C'était une femme, une jeune femme non mariée. Et puis le sens évolue, virgo devient le symbole d'un certain idéal, celui de la pureté, de l'innocence, de la femme préservée. Et les exemples anciens ne manquent pas. Les vestales, les prêtresses de la Rome antique, devaient rester vierges pour garantir la protection de Rome. Dans la Bible, la virginité de Marie devient le modèle suprême de la sainteté féminine. Et c'est comme ça qu'au fil des siècles, le corps des femmes devient un territoire à surveiller, avec pour frontière un simple bout de peau, l'hymen.
Et sauf que depuis, la science a montré qu'un hymen peut être là comme pas là, et même rester intact après un rapport sexuel.
Oui, mais ça, c'est récent. Et entre-temps, des milliers de femmes ont été jugées, répudié, humilié à cause de cette fine membrane. Aujourd'hui encore, plus de 20 pays pratiquent des tests de virginité. Jusqu'à il y a 15 ans, en France, il arrivait qu'on demande des certificats de virginité avant un mariage religieux. Sur TikTok ou Instagram, la virginité est revenue à la mode, on va en parler, à coups de hashtags comme Purity Culture ou Virginity Pledge, des serments de chasteté popularisés sur les réseaux sociaux. Heureusement, d'autres rappellent que la virginité n'est pas seulement un état du corps, mais aussi une emprise du pouvoir masculin. Alors, d'où ça sort la virginité? Eh bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Bien, merci beaucoup mon cher Cyril. Manon Lugas, ce serait quoi votre définition à vous de la virginité pour démarrer?
Ma définition à moi, ce serait déjà une personne vierge d'expérience sexuelle. Parce qu'on se focalise beaucoup, puisqu'on a une sexualité très phallocentrée sur la pénétration vaginale, mais finalement, on peut se dire vierge quand on n'a pas expérimenté déjà d'être nu devant quelqu'un, de se mettre à nu devant quelqu'un. Donc ça serait de toute expérience sexuelle au départ. Aujourd'hui, on a plus une définition plus phallocentrée qui est concentrée sur la pénétration vaginale. Et c'est pour ça que certaines personnes ont parfois de l'activité sexuelle avant d'avoir cette pénétration, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une pénétration anale, ils vont déjà avoir des contacts, etc. Mais ils vont être considérés comme vierges parce qu'il n'y a pas eu de pénétration vaginale.
Ce qui n'a vraiment pas beaucoup de sens.
Absolument, absolument.
Mais est-ce que biologiquement, la virginité signifie quelque chose?
Comme on disait, en fait, la membrane, il y a des personnes qui peuvent avoir cette membrane qui va être plus ou moins souple, qui va être plus ou moins perceptible s'il y a une pénétration ou pas. Encore une fois, il y a une diversité des corps, donc il n'y a pas une définition anatomique même de la virginité.
Oui, parce qu'on entend souvent, par exemple, qu'en tant que femme, on peut perdre notre hymen en faisant, par exemple, du cheval quand on est petite.
Complètement. Et comme ne jamais avoir de saignement lors d'une pénétration, c'est juste qu'on a créé tout un imaginaire, parce qu'on estime que c'est censé être visuel, que c'est censé être perceptible lorsqu'il y a cette première pénétration, d'avoir du sang qui coule, d'avoir des douleurs. En réalité, non, pas du tout. Et c'est encore une fois juste un instrument pour pouvoir posséder cette virginité. Elle appartient plus aux autres qu'à soi, finalement.
C'est donc une pure invention sociale. Est-ce qu'on sait, bon, je ne sais vraiment pas si vous avez réponse à ça, mais je me pose la question, je la pose en direct à tout le monde. Est-ce qu'il y a des sociétés dans lesquelles la notion de virginité n'existe pas? Ça doit exister puisque c'est visiblement une création sociale.
Sachant que c'est quand même assez omniprésent dans les religions, et que même si chaque culture va avoir son rapport à la virginité, on sait qu'il y a quand même une sacralité qui est partagée à travers toutes les cultures. Et ironiquement, il y a aussi une forme de fétichisation qui est partagée un peu partout dans le monde. Je m'écarte un petit peu de la question, mais on le dit disais tout à l'heure, ça reste une catégorie porno. Et ça fait partie des catégories porno les plus consultées dans le monde entier. Ça reste une forme d'éditorialisation de plateforme. C'est-à-dire que dans des titres, on voit « jeune femme vierge fait telle pratique ». Quand on clique, il n'y a pas du tout de mention de virginité. Oui. Donc, ce qui est sûr, c'est que la sacralité, elle reste omniprésente. Et en plus, on remarque que le sujet, il est présent sur toutes les plateformes.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Quand la virginité devient une trend TikTok, la vulgarisatrice sexo Manon Lugas est avec nous cet après-midi pour décrypter ce phénomène qui prend de l'ampleur sur les réseaux, la virginité. Vous dites que sur TikTok, Manon, vous voyez des posts de filles qui se revendiquent vierges, mais pour vous, c'est une stratégie éditoriale. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je pense en effet que pour certaines créatrices, en tout cas, elles ont bien compris qu'elles pouvaient totalement capitaliser dessus, puisque c'est un sujet qui fait communauté, c'est-à-dire qu'on est vierge une fois dans notre vie, ça rassemble forcément, ça génère de l'interaction. Encore une fois, c'est très fantasmé, donc ça peut attirer aussi un public qui désire absolument des personnes vierges. Mais c'est surtout que sur certaines plateformes, quand on dépasse par exemple la minute de vidéo et qu'on a une certaine communauté, on peut commencer à générer des revenus, on peut commencer à générer de l'argent. On s'est aperçu qu'il y a quand même des créatrices qui en parlent régulièrement pendant plus d'une minute, souvent avec les mêmes discours mais d'autres décors ou d'autres manières d'en parler, et qu'en fait elles commencent à capitaliser, c'est-à-dire qu'elles font de la vue, elles engendrent de l'argent régulièrement, elles ont conscience que ça,
c'est un business, en fait,
ça peut créer un business. Et derrière, ça, certaines créatrices américaines ont même créé des ateliers pour entretenir sa virginité, entretenir sa pureté, prendre soin de son énergie féminine, alors je ne sais pas comment dire en français, mais redevenir vierge, se revirginiser. Donc en fait, il y a tout un business
qui
vient se
créer. Pardon, ça c'est spirituel ou c'est technique ?
Non, c'est spirituel, puisque techniquement, à part des opérations, des minoplasties, il n'y a pas grand-chose qui soit vraiment possible. Non, c'est plus du rituel, et encore une fois, ça repose sur un manque d'éducation anatomique, un manque d'éducation...
Mais c'est une espèce de culte, en fait, non ?
Complètement, et donc c'est pour ça, ça reprend cette sacralité, ce côté c'est sacré, du coup c'est plus manipulable et on va vers les personnes pour qui c'est important, pour générer de l'interaction, pour créer communauté et vendre derrière des produits et créer un business aussi. Ouais.
Quel est le profil de ces filles qui revendiquent leur virginité ? Est-ce qu'il y a forcément de la religion ou une idée politique derrière ? Ou est-ce que c'est conservateur ?
Il y a souvent de la religion, parce que c'est réel, la virginité a quand même une place importante dans les religions, on ne peut pas le nier. Mais il y a aussi quand même toute la montée des valeurs conservatrices que l'on voit dernièrement sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de contenu, les communautés conservatrices sont très 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 présentes sur les réseaux. Donc en effet, ça s'aligne avec cette volonté de contrôler la sexualité, d'aller à l'encontre de ces mouvements libérateurs de sexualité. La virginité, d'une certaine manière, ça peut aller dans ce sens-là. Donc oui, il y a des personnes qui vont avoir plus des valeurs conservatrices, qui vont faire corps avec ces communautés-là, qui vont y incruster leur idéologie.
Est-ce que ça concerne aussi les garçons ?
Bien sûr, ça va être un peu moins au cœur des débats, parce que la virginité des garçons, on y accorde un petit peu moins d'importance, mais c'est toujours un système de valeurs. C'est toujours un système de valeurs de « c'est l'unique, je suis l'unique personne, je cherche l'unique personne » et donc on rentre encore une fois dans cette volonté matrimoniale monogame de l'exclusivité. Donc, dans ce cas-là, c'est plus des communautés qui se rassemblent et qui partagent les mêmes valeurs. On est moins sur le fantasme que pour les femmes, où il y a quand même cette notion de première pénétration qui est dédiée et offerte à quelqu'un, un peu comme une offrande. Chez les hommes, c'est un petit peu moins présent.
Vous parliez du porno tout à l'heure. Est-ce que l'émergence de plateformes comme OnlyFans ou comme Mime participe aussi à cette revalorisation, entre guillemets, de la virginité aujourd'hui ?
Je sais pas si ça y participe, mais alors, ce qui est sûr, c'est que parfois c'est un argument, c'est-à-dire c'est totalement un argument de vente de dire bah, cette jeune femme n'a pas d'expérience et pour autant elle se lance dans du contenu pornographique. On sait très bien que ça va attirer une certaine audience, même si c'est des choses qui sont pas vraiment vérifiables. Ça attire une communauté, ça crée du business et d'une certaine manière, certaines personnes en tout cas s'alignent sur ces valeurs-là parce qu'ils sont contre le développement de contenu pornographique intensif comme on peut en voir dernièrement. Donc ils estiment en tout cas qu'il y a trop de pornographie, qu'il y a trop de sexualité, d'hypersexualisation, donc ils vont aller chercher dans ce côté, moi je veux entretenir une pureté, je veux entretenir une sexualité qui ne soit pas influencée par tout ça.
Est-ce que il y a quelques années, il y avait des serments de virginité, même des bacs de virginité ? Ça existe toujours, ça ? C'est toujours tendance ?
Malheureusement, oui, ça existe toujours. Il y a toujours des bagues qui sont souvent offertes dans le cadre familial. Donc, c'est-à-dire souvent le père qui offre ça à sa fille, c'est terrible.
On est
vraiment sur le climat incestuel patriarcal terrible. Donc, encore une fois, la virginité, elle ne nous appartient pas. Finalement, elle appartient plus aux autres. Il y a les bacs de virginité, il y a les tests de virginité qui existent encore, et pire, il y a des kits de virginité qui existent, qu'on peut trouver sur Amazon.
Vous avez quoi, c'est un kit de virginité ?
C'est des petite sorte de pastille bulle remplie de sang que l'on s'insère dans le vagin, donc c'est pas sans danger.
Pour simuler
une virginité.
Mais tout donc, existe, ouais.
Encore une fois, c'est un business, mais parce qu'il y a une énorme pression, ça traduit juste de la pression patriarcale qu'il y a sur la virginité des femmes qui, finalement, ne disposent pas encore totalement de leur corps.
Et vous qui nous écoutez, êtes-vous vierge? Quentin, qui n'a aucune manière, il a grandi dans les verts pâturages normands et n'a pas peur de fouler au pied votre intimité, est allé vous poser la question. Ou plutôt, il est allé vous demander ce que vous pensiez de ce retour de hype de la virginité.
Je marche le long du jardin du Luxembourg. Bon, l'activité du Sénat reprend petit à petit, mais c'est pas encore le feu. C'est en tout cas ici que je fais mes deux premières
rencontres. C'est rarement le feu, hein, si c'est au Sénat. Et...
C'est en tout cas ici que je fais mes deux premières rencontres. Françoise et Nelly, un peu plus de 70 ans, elles attendent une guide touristique. En attendant, elles découvrent le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Oui, virginité. Comment c'était perçu à votre époque, la virginité ?
Ça dépendait déjà de la foi de chacun ou de chacune. Parce que finalement, quand on était croyant, bon, forcément, c'était important, l'histoire du mariage, la robe blanche et tout le tintouin.
Tout le tintouin. Est-ce que c'était un tabou ? Est-ce que c'était tabou, la virginité, à leur époque ?
Non, mais en fait, alors moi, je crois que là aussi, vous zappez un petit peu le côté... finalement de la contraception, parce que...
Le gros problème, c'était surtout de ne pas tomber enceinte. C'était ça le problème, plus que la virginité à l'époque.
Eh oui, c'est aussi toute une génération de femmes qui, faute de contraception, restaient vierges pour ne pas risquer de tomber enceinte et de se retrouver un peu piégées. Pour elles, la virginité, malgré la contraception, revient quand même sur le tapis.
Et d'ailleurs, ça continue encore dans certains pays, parce qu'il y a des pays, par exemple, tout ce qui est l'islam et tout ça, ils recousent... Ils recousent les...
Enfin, l'hymen. Oui.
L'hymen de la dame qui aurait fauté, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Pour arriver vierge au mariage, donc c'est quand même très hypocrite.
Je rencontre maintenant ce jeune homme, 18 ans à peine. Que lui inspire la virginité ?
Pour moi, c'est inégal, parce qu'en général, c'est plutôt pour les femmes que c'est bien vu. Moi, pour les hommes. Enfin, les hommes, la question, elle se pose moins, on s'en fout un peu... Enfin, ça peut être un complexe si on est encore vierge.
Je lui demande son regard sur notre époque. Est-ce qu'il s'intéresse par exemple au body count, le fait de savoir avec combien de personnes sa partenaire a couché avant d'être avec lui ?
Pour moi, ça change absolument rien. Enfin, en vrai, c'est pas un truc que je prends en compte. Avant, oui, mais maintenant, je m'en fous.
Avant ?
Quand j'étais plus jeune, genre, je sais pas, 15-16 ans, que j'avais eu aucune relation, ça me dérangeait un peu d'être avec une personne qui en avait beaucoup, peut-être par complexe personnel. Crédulité, quoi, quand t'es jeune... écoute ce qu'on dit de manière générale, body count et tout, enfin les réseaux sociaux quoi.
Pour cette jeune femme que je rencontre maintenant, en revanche, la virginité est passée d'une valeur morale à un critère physique.
Et maintenant, c'est presque des difformités corporelles qui vont apparaître selon le nombre de partenaires qu'une personne a pu avoir.
Tu penses à quoi, si on le dit crûment ?
Oui, bah le fait que le vagin va s'ouvrir, enfin est totalement distordu et totalement relâché. Enfin, je trouve que c'est encore plus une réappropriation du. Ouais, du corps des personnes qui ont ces organes végétaux, quoi.
Parlons avec ces deux copines qui bossent dans la com, 45 et 48 ans.
Virginité.
Pourquoi on parle de ça ?
À cause des incels. De tous ces jeunes hommes masculinistes qui encensent la virginité pour assurer leur virilité, parce qu'ils pensent que cette virilité-là est mise en danger aujourd'hui. Et... Moi, j'ai une réponse très simple sur la question, c'est que si soi-même on a envie d'être vierge et qu'on n'a pas d'influence trop importante de la part d'autres personnes ou qu'on ait envie de faire des partous tous les week-ends ou de rester vierge, je vois pas où est le problème, on fait ce qu'on veut.
Mes dernières rencontres, ce sont ces deux lycéennes blondes qui se marrent en sortant des cours.
De la virginité du coup, du fait d'être vierge.
Moi, personnellement, comme je suis beaucoup dans ce... Dans cet état d'esprit, je trouve que c'est plutôt bien que certaines personnes se conservent de cette manière. Et ça va aussi dans le sens de notre religion, on a la même, pas avant le mariage, tout ça.
C'est quoi votre religion, je peux ?
Chrétienne.
Sa copine, justement, réagit à cette question de virginité.
Surtout que pour moi, quand tu le fais, c'est pour avoir un enfant.
Oui.
Et j'aurais pas d'enfant, je veux avoir un enfant une fois que je serai mariée avec la personne que j'aime. Clarifier les choses.
Oui, il y a aussi que dans notre religion, il est dit que on va pas passer à l'acte juste pour le plaisir.
Et en les écoutant toutes et tous, je comprends que la virginité reste un sujet bien vivant, mais surtout révélateur de la manière dont chacun essaie aujourd'hui de poser ses propres limites et ses choix sans se les faire dicter. Un thème qui parle autant de sexualité que de pression sociale et qui montre à quel point l'intime continue de peser dans la conversation publique.
Merci Quentin. Alors c'est peut-être une tendance TikTok sur laquelle on zoome aujourd'hui, mais quand j'entends cette jeune fille chrétienne qui nous parle de se conserver, l'inverse c'est on s'abîmerait si on faisait la mort du coup, on en revient tout simplement aux fondamentaux du péché originel, et c'est d'ailleurs commun à beaucoup de religions, beaucoup de monothéisme, mais c'est une forme de... Voilà, c'est, tout revient à la religion finalement.
Bah, on est dans une logique de consommation. Vraiment, quand elle dit conserver, je garde l'hymen, je garde ma virginité pour un moment où ça sera trop tard, ça sera passé, donc tout ça, j'aurai plus cette valeur-là. Comme si c'était vraiment un trait de personnalité, comme si c'était une importance capitale. Encore une fois, c'est la preuve de la pression, comme tu disais, c'est-à-dire que il y a tout un système de valeurs qui repose sur ça, et sur, du coup, quand même, un concept qui n'est pas prouvé anatomiquement, qui est très sacralisé et qui concerne surtout des personnes qui n'ont pas encore totalement accès à une éducation sexuelle qui soit inclusive et réaliste, quoi.
Mais qu'est-ce qu'on répond au fait que faire l'amour, c'est pas une question de plaisir? Elle dit ça, elle dit... C'est pas fait pour prendre du plaisir, c'est fait pour faire un enfant.
Ouais. Bah, c'est la preuve que les combats féministes n'ont pas encore totalement terminé de travailler. Il y a encore toute une notion de plaisir, de consentement qui nécessite d'être abordée dans le grand public. C'est pour ça que ce travail de réappropriation, il est super important. On a l'impression qu'il a été très intense ces dernières années. C'est la preuve qu'il y a encore énormément de travail à faire auprès des jeunes filles et auprès des jeunes hommes aussi. Simplement parce que le tabou existe encore. On a l'impression d'avoir fait tout le travail, la réalité c'est que non. Si une personne a envie de rester vierge d'expérience, elle a le droit, évidemment, mais ça ne doit pas être un outil patriarcal, un outil de contrôle sur le corps des femmes, tout simplement.
On parle beaucoup aussi de body count sur les réseaux, il y a énormément de vidéos de personnes qui vont demander à d'autres personnes dans la rue combien t'as eu de partenaires sexuels, etc. Pourquoi une telle curiosité pour le nombre de partenaires sexuels des gens aujourd'hui?
Parce que c'est un des derniers systèmes de contrôle qu'on a aujourd'hui. C'est en plus de le rendre viral et de générer de l'interaction dessus sur les réseaux sociaux. Les valeurs avec lesquelles on grandit sont propres à chacun. Pour certaines personnes, un body count élevé, ça va être preuve d'expérience, d'attractivité. On va se dire, OK, il y a quelque chose d'hyper intéressant là-dedans. Pour d'autres personnes, si on revient dans la logique de consommation, c'est... Le produit n'est plus frais, en fait. Tu as trop d'expérience, ça ne me convient plus, ça ne me convient pas. En tout cas, ce n'est pas honorable, ce n'est pas respectueux. Et donc, ce système de valeurs, comme il est propre à chacun, dans une société qui a totalement tabouisé le plaisir sexuel, eh ben, ça reste, encore une fois, une manière de contrôler la sexualité des femmes dans une ère où, justement...
Oui, parce que c'est très sexiste aussi, le body count.
C'est totalement sexiste, parce qu'un homme qui a, on va dire, un body count élevé, on lui attribue ce rôle de Casanova et donc de personne d'expérience, là où une femme perd une forme de valeur. Donc c'est, encore une fois, je dirais, un outil, une tendance qui est assez conservatrice et qui veut aller à l'encontre de la libération sexuelle.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël... sur France Inter.
Mathieu, j'aime le gai savoir, mais tu ne peux pas salir ma réputation en me prêtant une première relation charnelle avec une vache. Me disait Quentin, hors antenne. Il a raison. Il a raison. En matière de sexualité, on ne peut pas sacrifier la vérité sur l'autel du fun. Voilà pourquoi je vous présente, mon cher Quentin, mes plus plates excuses. Non, vous n'avez jamais croisé de vache nommée Micheline. Rendons hommage à celle qui, dans sa fourgonnette sur le parking du Aldi, devant la salle polyvalente Jean Schultheis d'Alençon, a vraiment fait de vous un homme. Elle s'appelait Mireille.
Bonjour, les
hommes. Et vous étiez visiblement plusieurs ce soir-là. Mais revenons à notre thème du jour, la virginité. C'est l'heure du zoom zoom test.
D'une gênance.
À la découverte aujourd'hui, Quentin, des figures iconiques de la virginité à travers l'histoire. Et pour cette première question, partons pour le monde merveilleux de Disney. Vous me connaissez, j'ai mon éthique, j'ai ma pudeur. Par respect pour Quentin et Pierre Courade, la question ne portera ni sur les sept nains, ni sur le tandem ambigu Tic et Tac, deux écureuils malicieux qui ne faisaient peut-être pas que stocker des noisettes, si vous voyez ce que je veux dire. Non.
Il y a Roxy Rookie aussi.
Même si, j'avais pas pensé à cela. Même si Simplet et Joyeux n'avaient probablement pas non plus vu le loup, cette première question porte sur une célèbre héroïne de Disney, héroïne inspirée d'un personnage bien réel qui préféra se suicider plutôt que perdre sa vertu. Cette courageuse pucelle, c'est Pocahontas. C'est pas drôle, c'est triste. Pocahontas,
c'est le mot Mulan, pucelle, ça me fait rire.
Oui, c'est ça, ça fait penser aux visiteurs, bêtement. Mulan ou Jasmine dans Aladdin?
B, Mulan.
C'est Mulan.
Jasmine.
Arrêter de mettre
moi,
des
dire c'est, je vais dire c'est pour dire autre chose. Ouais. Jasmine.
Mulan.
Mulan, ouais.
C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse de la gente féminine. Voilà. Effectivement, Mulan, le dessin animé Mulan, est la libre adaptation d'un poème du 6e siècle.
Vous auriez pu mettre la musique de Mulan.
La balade
de
Mulan.
En plus, elle est trop bien.
Mais non, c'est non.
Ah, c'est ça.
Mais évidemment.
Non, mais
qui évoque le choix.
C'est ça, musique chinoise triste. Il y a marqué ça.
Manon, vous êtes immédiatement sanctionné de moins 2 points dans ce quiz. Vous perdez 2 points, c'est dommage. Vous êtes à moins 1, Quentin à 0. Quentin, vous avez la main. Bon, bref, vous vous en foutez de l'histoire de Mulan qui évoque le choix de Mulan de mettre fin à ses jours. plutôt que de céder à l'empereur qui voulait en faire sa concubine. Sacrée bonne femme, dira Cyril. Comme quoi, même chez les cocos, il y a des belles personnes. Fin de la citation. Mais quittons la Chine du 6e siècle pour la France du 15e, quand raffinement rimait avec bienveillance.
Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin.
À la rencontre de celle qui restera dans les livres d'histoire comme l'antithèse absolue de Manon Mariani, puisqu'elle était patriote et que surtout on l'appelait la pucelle. Je veux bien sûr parler de Jeanne d'Arc, celle que Cyril appelle à la rescousse quand, après quelques verres de vodka jet, il oublie qu'il est de gauche. Il a même sur son avant-bras un tatouage la représentant topless sur une Harley Davidson, arme automatique à la main, avec la légende « Only God can judge me ». C'est très bizarre. Eh bien, figurez-vous que lors de son procès en 1431, Jeanne d'Arc, qu'on surnomme la pucelle d'Orléans, est interrogée sur la réalité de sa virginité. D'après vous, Manon, Quentin, qu'a-t-elle répondu au juge qui lui posait la question ? Elle a répondu « Seul Dieu peut me juger », d'où le tatouage de notre rédacteur en chef. Elle a répondu « T'as qu'à vérifier toi-même » ou « Mange tes morts, sale roast beef ».
Ah bah oui, c'est facile, ouais, du coup.
C'est facile,
là,
Quentin.
Elle était plus rapide, ouais.
Ouais,
bah, je vais dire B.
Dites B comme ça pour dire autre chose. Eh bien, c'est une bonne réponse de Quentin, lui. Oui, t'as qu'à vérifier toi-même.
Jeanne d'Arc a dit ça.
Ultime bravade de notre chère Jeanne avant qu'elle ne soit hissée sur le bûcher par des Anglais à qui Cyril ne pardonnera jamais. Il se venge chaque fois qu'il le peut en massacrant leur langue.
Confessions of a work alcoholic, the facts about work addiction.
Elle était un peu vengée, Jeanne.
Celle-là, c'est la pire.
Mais au fait, Quentin Manon et Manon, devrais-je dire, parce que Manon joue aussi si elle veut. Vous qui êtes des sommités de l'histoire médiévale, j'imagine que vous savez sous quel chef d'accusation Jeanne d'Arc était jugée lors de ce procès. Elle était sur le banc des accusés parce qu'elle s'habillait comme un homme ? Parce qu'elle parlait directement à Dieu sans passer par ses collaborateurs ? Ou parce qu'elle était une fanzouze de Satan ?
B. Ah. B et C.
J'aurais dit C, moi.
Et tous Satan ensemble, je peux.
Les trois ?
Les trois, okay. Quentin, oui, les trois, bien sûr.
Faut le dire quand
c'est
un
C'est votre nouveau combat,
alors,
ça.
Il y en avait beaucoup plus que trois, puisque l'acte d'accusation de Jeanne d'Arc était encore plus long que celui du président Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Et restons quand même au Moyen-Âge, on y est si bien. Un Moyen-Âge fictif, cette fois. Oui, la série préférée de Pierre Courade, évidemment, pour toutes ces scènes où des chevaliers se battent torse nu dans la boue, mais aussi en raison de la visibilité qu'elle a offert aux gens comme lui, grâce à l'inoubliable personnage de Tyrion Lannister.
Ouais, je suis en plein rewatch en ce moment.
Vous êtes en rewatch.
Oui,
vous avez le temps.
Ouais, vous pouvez dire simplement que vous le revisionnez.
Je suis à l'épisode 3 de la saison 1. Donc.
Une série qui documente bien les loisirs de l'époque, comme les décapitations, les viols ou encore la torture, mais aussi l'amour. Et puisque nous parlons de virginité, quel couple va se former entre un être, disons, rodé au plaisir des sens, aussi appelé en 2025 un queutard, et une oie blanche, encore novice dans l'art délicat du massage prostatique. Ce couple déséquilibré, c'est Jamie et Brienne, le dragon et Cersei, ou Khal Drogo et Brienne ?
B.
Mais non, t'es bête.
Décidément,
ben non, c'est A, c'est
vous, zoophile.
C'est Jamie et Brienne.
Jamie et Brienne, c'est une bonne réponse de Manon Marie. Jamie aime Cersei. Cersei aime Jamie, mais leur amour est impossible, même s'ils ont eu trois enfants ensemble, ce qui est difficile à comprendre. Quand Jamie perd sa main au combat, Cersei lui tourne le dos, car il ne peut plus l'aider à essuyer la vaisselle. Alors que Brienne, qui a été sa gardienne en prison, le kiffe, même avec un morceau en moins. Mais Brienne n'a jamais connu l'amour et attendra des années avant de déclarer sa flamme. Quand elle se décide enfin, c'est trop tard. Cersei débloque Jamie sur Insta. Bye bye Brienne et welcome back Cersei la toxique. Un retour bercaille de courte durée, puisqu'ils mourront ensemble, quelques temps plus tard, écrasés dans les fonds de leur F3 à Westeros, et ils sont aussi
défaite
de l'amour et victoire, large victoire de Quentin, mais ça ne m'étonne pas sur un sujet comme celui-ci.
Merci à tous, Quentin.
Quand être vierge n'est plus un complexe mais un idéal, on continue de zoomer sur la tendance virginité qui envahit les réseaux. La créatrice de contenu, fondatrice du compte Le Cunu sur Insta, Manon Luga, est toujours avec nous pour nous décrypter ce phénomène qui prend de l'ampleur, revendiquer donc sa virginité. Manon, on a parlé des États-Unis, est-ce que ce phénomène est aussi présent et puissant chez nous en France?
Alors évidemment, aux États-Unis, il y a quand même l'impact de la religion qui est très très présent, donc c'est beaucoup plus important et beaucoup plus en masse. Mais en Europe, on voit de plus en plus de créateurs ou de créatrices de contenus qui reprennent les contenus que l'on peut retrouver aux États-Unis et qui les réadaptent à leur culture et qui en fait développent exactement les mêmes commerces. Donc oui, on voit que sur les réseaux sociaux en Europe, il y a cette tendance qui revient, et aussi parce qu'il y a une montée des valeurs conservatrices aussi en Europe. Donc évidemment, oui, ça se développe un peu moins, mais ça se développe aussi.
Mais où est l'œuf et où est la poule ? Est-ce que c'est le fait de cette mode de la virginité qui booste le camp conservateur, voire réactionnaire ? Ou est-ce que c'est ce camp-là qui pousse ce genre de vidéos, qui incite les gens à faire ce type de story pour alimenter leur paroisse.
Je pense qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos des créateurs de contenu un peu conservateurs ou des créateurs et créatrices conservatrices. Je pense que c'est un peu un cercle qui s'est fait dernièrement où on a voulu parler de tous les sujets, de tous les tabous. La virginité y était, évidemment. Et donc, y a eu cette volonté de se réapproprier le sujet, d'y donner... apporter des valeurs morales qui vont un peu plus dans ce sens. Je ne sais pas qui en est totalement à l'origine, mais je pense que c'est une suite logique de tout ce qui s'est passé dernièrement et de tous les sujets qui ont été abordés dernièrement sur les réseaux sociaux.
On en est où aujourd'hui au lycée, et je dirais même en fin de collège, c'est les conversations que nous, enfin moi si je me souviens bien, qu'on avait à ce moment-là. Ouais. Je voyais que l'âge moyen du premier rapport sexuel augmentait aujourd'hui en France.
Ouais.
C'est 17 ans pour les hommes, 18 ans pour les femmes.
Ouais.
Pourquoi ce recul ?
Déjà parce que les nouvelles générations sont un petit peu plus éduquées autour de l'éducation à la sexualité, c'est-à-dire que y a plus de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, il y a plus de livres, il y a plus d'espace pour parler de sexualité, donc généralement les plus jeunes générations prennent un peu plus le temps de s'éduquer.
C'est vrai que nous on a juste eu le guide du sexuel de
le Dico Défi.
Voilà, le Dico Défi. Le guide de la redoute pour moi.
Et c'était pas dingue. Donc oui, en effet, c'est un peu plus riche aujourd'hui, donc il y a un peu plus de responsabilisation, je dirais, de la part des jeunes. Ils ont conscience de ce que ça implique. Et ils sont un peu plus éduqués sur la manière de faire. Cela dit, c'est l'âge de la première pénétration qui a reculé. Les premières expériences sexuelles, elles arrivent généralement un petit peu avant. Ouais. Les premiers contacts, les premiers bisous avec du contact, les premiers, ce qu'on appelle préliminaires, même si c'est pas vraiment un terme approprié. La première pénétration, comme il y a quand même un peu plus d'engagement et que ça demande un petit peu plus d'énergie, ça peut faire un peu plus peur aussi aux jeunes filles, etc. Ça arrive un petit peu plus tard, simplement parce qu'ils sont plus éduqués.
Mais la virginité dépasse aussi les trends sur les réseaux sociaux. On l'a vu, des téléréalités surfent sur ce phénomène. Elle s'appelle Virgin Island au Royaume-Uni, Are You the First aux États-Unis. Des émissions qui mettent en scène des candidats vierges. Si, ils sont hot, ils arrivent sur une île, mais ils doivent garder leur virginité. Ouais. Est-ce que finalement, ça ne glamourise pas aussi ce retour de la virginité dont on parle depuis tout à l'heure ?
Complètement, et surtout, encore une fois, c'est un capital. Finalement, c'est encore un critère qui va générer derrière du business, qui va générer du divertissement. Par exemple, dans Are You My First, c'est vraiment une volonté de dating. On est sur une émission de dating. Ils sont là pour se rencontrer, pour se séduire. Le fait qu'ils soient vierges, c'est juste un point dans leur personnalité. Le sujet, il n'est pas tant abordé. Il n'y a pas tant de sensibilisation. Il n'y a pas une volonté de comprendre de pourquoi vous avez préservé votre virginité, jusqu'à quel âge, qu'est-ce que vous attendez, etc. On est là pour créer du divertissement autour d'un point commun. Sur Virgin Island, on est là pour se moquer de la virginité. On est là pour en rire.
Comment ils s'en moquent ?
J'ai regardé quelques épisodes, mais c'est pour le travail.
Bien sûr,
je prends mon rôle à cœur. Il y avait par exemple des ateliers où ils découvrent une personne nue qui arrive, comment se passe une érection, comment c'est censé se passer une pénétration, etc. L'idée, c'est un peu de se moquer, de faire croire qu'ils sont passifs dans cette activité sexuelle. Or, même si on est vierge, on reste actif, on sait comment ça peut se passer. On va quand même se renseigner, nourrir notre imaginaire érotique. C'est pas parce qu'on n'a pas eu de pénétration ou aucune activité sexuelle qu'on est totalement en passivité. Par exemple, dans Virgin Island, c'est plus une volonté de se moquer un peu. Donc c'est aussi la preuve que...
Caricaturer.
Complètement. C'est aussi la preuve que ça peut faire du bien d'en parler sur les réseaux sociaux pour relativiser et pour rassurer certaines personnes. C'est juste pas toujours fait dans cette optique-là.
Peut-être un mot sur le socking. Est-ce qu'on peut dire ce que c'est ?
Oui, alors le socking. Donc dans certaines communautés, on ne peut pas avoir de pénétration vaginale parce que du coup, ça casse la sacralité de la virginité. Mm-hmm. Donc il y a beaucoup de communautés qui prétendent que l'on peut quand même avoir une activité sexuelle en ayant une pénétration ailleurs, donc par exemple anale ou buccale. Le soaking, c'est le fait d'avoir cette activité sexuelle en dehors de la pénétration vaginale, ou même carrément de juste se frotter, avoir un contact pénis-vulve, et des personnes qui nous aident au mouvement, ou un lit qui nous aide au mouvement, ou une des deux personnes qui fait le mouvement, mais du coup, qui n'est pas totalement cette pénétration vaginale assumée. Encore une fois, c'est l'idée de contourner les codes pour préserver l'emblème, mais quand même avoir une activité sexuelle.
C'est un peu le comble de l'hypocrisie. Même.
On y est. C'est surtout beaucoup d'énergie pour pas grand-chose.
Beaucoup d'énergie pour rien. Vous écoutez France Inter, il est 16h45. Sa pièce jointe n'arrive jamais dans nos spams. C'est Manon Mariani.
J'aime beaucoup ce lancement. Une comédie aujourd'hui, elle est sortie en 2005, réalisée par Judd Apatow. Je vous parle de 40 ans, toujours puceau, un film culte de cette époque qui a marqué un tournant dans la comédie masculine des années 2000.
À la recherche d'un truc particulier ?
Il y a un truc particulier que je devrais peut-être chercher, à votre avis ?
Nous avons un grand choix de livres, de jeux solitaires.
Vous êtes friande de jeux solitaires ?
Oh !
Le film raconte l'histoire d'Andy, joué par Steve Carell, employé d'un magasin d'électronique, passionné de figurines et de jeux vidéo, qui n'a jamais eu de rapport sexuel à 40 ans. Quand ses collègues l'apprennent, ils décident de l'aider à passer à l'action. Une idée assez simple, un peu vulgaire aussi, mais que Jude Apatow transforme en film initiatique et drôle et touchant à la fois. Car derrière la farce sur la virginité tardive, 40 ans toujours puceau parle surtout de la solitude, de la peur, de l'intimité et du regard des autres. Andy n'est pas vraiment ridicule, il est surtout timide, un peu coincé par les codes virils d'une société obsédée par la performance. C'était assez nouveau pour l'époque où les personnages masculins dans les comédies pouvaient être caricaturaux, notamment quand il s'agit de sexe. Les American Pie, par exemple, cartonnaient au cinéma. Et on ne peut pas dire que c'était les films les plus déconstruits. On était quand même sur des blagues assez graveleuses et assez misogynes.
Mais 40 ans toujours puceau, c'est la version adulte.
En quelque sorte, c'est surtout la patte Jude Apatow qui fait la différence. Lui, ce qu'il aime, c'est parler d'hommes immatures, un peu dépassés par leurs émotions, mais quand même profondément humains. Dans une époque où la virilité se mesure souvent à la conquête, on l'a dit, Andy incarne une forme de douceur masculine. Le film est aussi évidemment un laboratoire à stars autour de Steve Carell, déjà star de la série The Office. On retrouve Paul Rudd, Seth Rogen, Elizabeth Banks ou encore Jonah Hill. Pendant le tournage, c'était un peu la cour de récré avec cette bande. Forcément, il y a eu pas mal de scènes d'improvisation, comme la scène de l'épilation du torse de Steve Carell, où il pousse des vrais cris de douleur. Le film a aussi fait bondir certaines sphères catholiques et chrétiennes américaines, pas du tout contentes de voir comment la virginité était dépeinte. Pour eux, 40 ans toujours puceau renvoie une image négative de la virginité avec une extrême vulgarité. Bon, c'est sûr qu'ils ont dû être choqués. 20 ans après, 40 ans toujours puceau reste une comédie fondatrice qui a ouvert la voie à d'autres comédies de Jude Apatow comme Superbad, En cloque mode d'emploi, Bridesmaid ou encore Funny People.
Merci Manon. Manon, mon autre Manon, Manon l'invité, Manon Lugas. La virginité des hommes, c'est vrai que c'est encore un sujet plus tabou que celui des femmes. Il y a des injonctions pour eux aussi à perdre leur virginité le plus tôt possible.
Ben oui, parce que ça a toujours été moqué. C'est-à-dire que voilà, le principe de la virilité, c'est de conquérir, c'est de pénétrer, c'est pas...
Là, c'est que positif, quoi.
C'est qu'en fait, si tu es toujours dans ton cadre de virginité, c'est que soit c'est totalement assumé, soit c'est que personne n'a voulu de toi. Et donc, en fait, c'est un jugement de valeur qui est différent. C'est beaucoup moins sacré. Du coup, la pression, elle est différente. Généralement, on sait aussi que chez les hommes, ça peut arriver un petit peu plus tard, parce que ils subissent un petit peu moins cette pression. Du moins, ils la subissent en vieillissant, contrairement aux jeunes femmes. Donc, c'est un peu moins, je dirais, au centre de l'intérêt.
Mais même le mot puceau, ça a une consonance hyper négative.
Hyper négative, hyper péjorative, alors que finalement, on peut ne pas avoir envie d'activité sexuelle. Et encore une fois, ne pas vouloir d'activité sexuelle, ça fait partie de la vie sexuelle et c'est pas grave. On va dire que les pressions sont différentes. C'est un peu moins au cœur du débat. C'est un peu moins aussi la cible d'insultes et d'outils de contrôle. Mais oui, ça reste un petit tabou aussi quand même chez les hommes.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
La virginité, c'est bon pour les bonnes femmes, déclarait souvent l'abbé Chibrard, en refermant son missel qui lui servait essentiellement non pas à lire la messe, mais à dissimuler le dernier exemplaire de Têtu. Généralement, l'édition du mois de juin, quand on était en octobre, vu que tout arrivait avec beaucoup de retard à Pétaram. Parmi les disciples de l'abbé, le rieur Pierre Courade, qui a donc été à bonne école pour nous résumer en une minute chrono tout ce qu'on s'est dit cet après-midi sur la virginité.
Oui, demander à un enfant de Lourdes de parler de virginité, c'est comme demander à Ronald McDonald de parler d'obésité, c'est mon domaine. C'est aussi celui de Quentin, mais pour d'autres raisons liées à son apparence physique. La virginité aujourd'hui.
C'est
vraiment.
Pour la virginité
quand on dit
Quentin.
Allez,
on y va. La virginité aujourd'hui est devenue l'objet d'une tendance sur les réseaux sociaux. On en a parlé avec la créatrice de contenu spécialisée dans la vulgarisation de sujets sexos, Manon Lugas. Elle nous a expliqué que ce phénomène est une réaction à l'hypersexualisation de notre société, la recherche d'une supposée pureté, de montrer que l'on se préserve pour quelqu'un, le tout porté par un retour du conservatisme, alors que biologiquement, notre invité nous a rappelé que la virginité n'avait pas vraiment de définition anatomique. C'est donc plus une construction sociale qui se monétise aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans la télé-réalité, pas forcément parce que tout ce qui est rare est cher, mais parce qu'on retombe là dans la sacralité fantasmée de la virginité, de l'hymen intact, issu souvent de dogmes religieux. L'exclusivité est recherchée. Finalement, la virginité appartient plus aux autres qu'à soi.
Merci Pierre, même si je ne peux pas cautionner ce que vous avez dit sur Quentin, je trouve ça abject. Et vous entendez, Micheline, elle ne pense pas du tout comme vous. Ne pense pas
je
du tout comme vous.
Pas une seconde.
Aujourd'hui, pour parler de virginité, nous ne recevons pas Lisa Perriot, mais Olivia Desforest, qui était déjà venue nous voir il y a quelques semaines.
Oui, bonjour Mathieu, je suis ravie de m'inviter parmi vous, puis enchantée, Manon, le cul nu, hein, je suis rassurée parce que quand Mathieu m'a dit je reçois une invitée le cul nu, je me suis dit Mathieu, je sais qu'on est à la radio, mais quand même, t'es un pantalon.
Et alors Olivia, vous ne travaillez plus dans votre agence de voyage là ?
Et vous Mathieu, vous invitez toujours des influenceuses féministes pour gagner des abonnés et ES ? Manon, le cul nu, je le connais par cœur, ne tombez pas dans son piège, il va vous faire croire qu'il s'intéresse à vous et après il va vous abandonner comme mon père. Papa, tu m'entends, je suis à la radio.
Olivia, vous êtes ici pour nous parler de votre toute première fois.
Papa, si tu entends, bouge-toi les oreilles. Oui, ma toute première fois. Alors, c'était avec Lucas, j'étais amoureuse. Oui. Oh, Lucas, il me disait tout le temps, si tu veux prouver que tu m'aimes, tu dois coucher avec moi, sinon tu n'es qu'une coincée. Vous pensez bien, j'ai tout de suite accepté, évidemment. Et puis après, tout le monde m'a traité de pute, même ma meilleure copine, hein, le lycée, vous savez.
Non, mais Olivia, on s'est mal compris, je voulais dire votre agence, toute première fois.
Ah oui, oulala, j'ai tellement d'agences. Oui, je me suis investie d'une mission, Mathieu. Beaucoup de femmes ont souffert de leur première fois, forcée, contrainte, un parent qui rentre dans ta chambre et qui te dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec ton cousin ?» Ça va. Maman, il était au troisième degré. Bref, toutes ces expériences foireuses. Moi, j'ai créé, grâce à moi toute seule, le réseau des cliniques que toute première fois, je permets aux femmes de récupérer un hymen tout neuf pour repartir à zéro, comme si rien ne s'était passé, ou devrais-je dire, rien ne s'était percé. Toute première fois, j'ai créé ce slogan également. C'est très vendeur, ça rentre bien dans la tête. Vous allez me dire, mais comment vos hymens fonctionnent-ils ? Oh, oui. Laissez-moi parler, Mathieu Noël, c'est fou de se faire autant interrompre. Eh bien, en fait, ce sont des petites capsules qu'on met dans la foufounette et qui sont remplies de sang et qui se percent au contact du dit phallus. Phallus, ce que j'ai dit, dit phallus. Ça va très vite. Avec nos hymens, vous pouvez choisir l'intensité de sang. Ça marche en fait comme des petites capsules Nespresso, vous voyez. On a du ristretto, du lungo, du double expresso pour ceux qui veulent s'en mettre partout. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les occasions. On a un hymen champagne pour une première fois festive, un hymen nuit calme pour une première fois tranquille, un hymen sa barque si on veut le faire sur un bateau et un hymen body si on veut que ça reste entre nous. Et on ne refait pas que les hymens, on refait les lèvres aussi. Ah oui, tout le package dingue. Ah oui, quand je parle des lèvres, Mathieu, je ne parle pas de la bouche.
J'avais compris, Olivia.
Vous allez me dire, mais je ne comprends pas, c'est le même mot.
C'était clair, Olivia.
Je parle de la vulve, Matt.
Oui.
Du sexe féminin qui se situe en bas et dont on a cœur de prendre soin. On refait les lèvres, on répare tous les dégâts, parce que c'est bien beau d'aller chez le psy en disant « Ouh là là, je suis traumatisée !» Mais l'esthétique, ça compte énormément et ça rapporte tellement. Deuxième jacuzzi pour Bibi. Dans mes cliniques, on propose un catalogue de lèvres incroyable de toutes les célébrités. Margot Robbie, Kate Blanchett, Kate Bush. Il y a un jeu de mots à faire, mais mon co-auteur m'a dit « Ta gueule avec tes jeux de mots !» Il m'adore. On peut faire les lèvres de toutes les stars et même celles de la radio, Manon Mariani. Vos lèvres font un carton. On vous a mis en photo sur le site. Ah oui, j'espère que ça vous fait plaisir. Oh si, vous devriez regarder. Elles veulent toutes les vôtres. C'est notre banger, les lèvres Manon. Papa, si tu m'entends, va pas sur le site, tu seras fier de moi. Bref, maintenant je dois vous laisser, j'ai une nouvelle agence à ouvrir, ça s'appelle Toute Dernière Fois. Rassurez-vous, non, c'est pas du tout du sexe pour les personnes en fin de vie. Enfin, je voulais, mais mon co-auteur m'a dit, mais t'es complètement malade, c'est quoi ton problème ? Je vous l'ai dit, il m'adore. Non, chez Toute Dernière Fois, on accompagne toute personne qui veut retourner vers son ex toxique et pour que, en fait, cette fois, ça soit vraiment la dernière.
Ah oui, ça va marcher aussi très fort. J'espère. Troisième jacuzzi en vue.
Ah
merci,
oui.
Lisa Perriot. Vous retrouve après les vacances dans Zoom Zoom et dans votre spectacle. C'est compliqué, je t'expliquerai, les mercredis à la Nouvelle Scène et un peu partout en France. Faut y aller absolument. Je ne dis pas ça parce que c'est écrit sur ma feuille. Merci beaucoup. Merci Manon Lugas de nous avoir permis de mieux comprendre cette mode de la virginité sur les réseaux. Je rappelle votre page Insta, le cul nu. Cyril a déjà mis des cœurs sur chaque publication et je vous laisse filer. Je crois que vous partez à l'étranger pour un tournage un peu olé olé, m'a-t-on dit.
Absolument.
Absolument.
Je vais être coordinatrice d'intimité dessus, donc oui, absolument.
Zoom Zoom Zen.